prince des monts en l'air et de la cambriole. Toi qui eus le bon goût de choisir ma maison, cependant que je colportais mes gaudrioles.
Brassens, ce matin avec Stance à un cambrioleur. Bonjour Armelle Lévy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service éco et conso d'RTL. Même en temps de crise sanitaire et de confinement, les cambriolages continuent.
Mais oui, les cambrioleurs ne semblent pas être très attachés au confinement. Ils se baladent toujours. Mais comme les Français étaient davantage à la maison avec les couvre-feux et le télétravail, le nombre de cambriolages a quand même chuté de 16% l'année dernière. Ça n'empêche, on en a dénombré encore 254 000 en 2020. Cela veut dire qu'il y a eu un cambriolage en France toutes les 2 minutes.
Mais alors, ça me semble énorme. Est-ce qu'il y a des régions qui sont particulièrement touchées ?
Eh bien, si on regarde attentivement le top 10 des régions les plus cambriolées, on voit que l'Île-de-France arrive largement en tête avec 53 000 cambriolages l'an dernier, dont 14 000 rien qu'à Paris, suivi de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 35 000 cambriolages en 2020 et un peu moins de 10 000 cambriolages en Bourgogne-Franche-Comté et en Bretagne. En bas du classement, on trouve la Normandie, le Centre-Val de Loire et la Corse, mais aucune région n'est vraiment épargnée.
Est-ce que les cambriolages ont toujours lieu 2 jours en notre absence ?
Eh bien non, 2 fois sur 3, les voleurs agissent quand vous êtes chez vous, y compris la nuit. Regardez ce qui est arrivé à Bernard Tapie et son épouse au début du mois. Les agresseurs les ont tirés du lit, ligotés et violentés pour savoir où se trouvait leur coffre. C'est ce qu'on appelle le homejacking. Ce type d'agression, c'est vraiment traumatisant. Il y en a eu 730 l'année dernière en région parisienne, mais le phénomène est en augmentation partout en France depuis 10 ans. Les experts en criminologie disent que le homejacking, comme le carjacking, sont une réponse à la sécurisation des logements et des véhicules. La technologie se perfectionne, donc les voyous contournent la technologie par la violence. D'ailleurs, la maison des époux Tapie était équipée d'un système de télé surveillance très perfectionnée.
Et comment les cambrioleurs choisissent-ils les habitations auxquelles ils vont s'attaquer, Armelle ?
Alors, ils font du repérage, ils regardent les logements où il y a le moins de systèmes d'alarme, une clôture plus facile à passer, des grandes haies où ils peuvent se cacher et les allées venues des habitants. Donc, quand ils sont sûrs qu'il n'y a personne dedans, ils y vont. Après, il y a toute une série de cambriolages qui sont un peu plus opportunistes, on va dire. Plus on rend l'accès facile, plus cela peut donner des idées aux cambrioleurs. Quand vous laissez une fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud, ou la porte ouverte 2 minutes le temps d'aller chercher le pain à côté, les assureurs disent que les cambrioleurs qui osent s'introduire dans les maisons en présence des occupants la journée ont souvent pour objectif de voler la voiture. Ouais. Et comme on pose habituellement les clés sur le meuble à l'entrée, ils conseillent vivement de les ranger ailleurs.
Classique.
C'est différent pour les homejacking, c'était pas spontané. Les agresseurs mènent leur enquête avant et ils ciblent les domiciles présumés riches en objets de valeur.
Et quelles sont les techniques, le mode opératoire des cambrioleurs pour entrer dans notre logement ? Ils forcent toujours la porte d'entrée, non ?
La plupart du temps, le point faible, ce sont les ouvertures. Donc si vous laissez la porte ou une fenêtre ouverte, c'est l'idéal. Oui. Ou s'il y a une fenêtre au premier étage et que vous laissez une échelle sur le mur ou une grosse poubelle dehors, ils peuvent s'en servir pour grimper. Ils peuvent passer aussi par les toits, donc ce n'est pas parce qu'on est en étage qu'on est dispensé de fermer ses fenêtres. Le but pour les cambrioleurs, c'est d'aller le plus vite possible.
Mais alors j'ai l'impression que ça se passe vite, un cambriolage, quand je vous écoute.
Oui, un cambrioleur ne passe pas plus de 5 minutes à essayer de s'introduire dans un logement. Au-delà, il en cherche un autre plus facile d'accès.
Bon, on fait comment pour se protéger d'un cambriolage ? Alors, ça passe d'abord par une protection renforcée de la porte d'entrée ?
Oui, près d'un cambrioleur sur 2 passe par la porte d'entrée. Donc, les assurances vous demandent souvent une porte blindée pour être couvert contre le vol. Vous pouvez ajouter un blindage sur une porte simple plutôt que de la remplacer. Après, il faut sécuriser les verrous avec une serrure 3 ou 5 points. Pour 20 ou 50 euros, vous pouvez ajouter un verrou pour compliquer l'intrusion. Vous pouvez également fixer une cornière anti-pince sur la porte. Ça empêche l'ouverture au pied de biche. Ça se trouve à partir de 50 euros et peut atteindre 200 euros selon la taille de votre porte et l'esthétique.
Vous savez, je me pose souvent la question, est-ce qu'il faut fermer les volets quand on part de chez soi ? Parce que c'est contraignant pour certains et on a tendance à se dire que voilà, on risque pas grand-chose.
Non, mais il faut le faire. La préfecture de police recommande toujours de fermer à clé toutes les ouvertures du logement, garage, porte principale et de maintenir les volets fermés pour les rendre plus difficiles à forcer. Vous pouvez installer une barre de protection à l'intérieur des volets et si vous avez des persiennes, vous pouvez relier avec un cadenas les 2 anneaux qui servent à les fermer. Ils seront plus durs à ouvrir. Pour 10 euros, vous pouvez là aussi placer des cornières anti-pinces pour que les fenêtres ne s'ouvrent pas avec un pied de biche. Et une dernière astuce, vous pouvez coller des films polyester sur vos fenêtres. Cela permet au vitrage d'éviter de se briser au premier coup. Ils agissent comme des retardateurs.
Parce que c'est vrai que parfois, on se dit qu'on ne va pas fermer ses volets pour donner à notre maison, à notre lieu de vie, en tout cas, le sentiment d'être habité. Alors qu'on se dit qu'en fermant les volets, à un moment donné, on va se rendre compte que le lieu est vide. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il faut quand même toujours se protéger.
C'est plus dur à forcer.
Oui, c'est ça. Donc en fait, il vaut mieux se protéger plutôt que de se dire qu'on va manipuler aussi les cambrioleurs. Bon, alors j'imagine qu'on évite d'annoncer notre départ en vacances sur les réseaux sociaux ou alors on poste en décalé, quoi.
Ben c'est ça, c'est mieux de les partager une fois que vous êtes rentré.
Mais oui.
Et c'est pareil pour le téléphone. Ne laissez pas un message sur votre répondeur à la maison indiquant que vous êtes absent jusqu'au 1er mai. Le mieux, c'est de faire un transfert d'appel. Comme ça, vous pouvez répondre à distance. Et aussi, l'un des trucs des voleurs en repérage, c'est de regarder les boîtes aux lettres des habitations. Si elles débordent, cela prouve que vous n'êtes pas là. Donc, vous pouvez demander à un proche de vider régulièrement le courrier. Vous pouvez aussi faire suivre votre courrier ou, si vous partez moins de 2 mois, utiliser le service de garde du courrier de la Poste pour 20 euros. La distribution des lettres et des colis dans votre boîte est suspendue.
Et les voisins, ils peuvent être d'une aide précieuse, en fait, hein, dans la prévention contre le cambriolage.
Ah oui, c'est un excellent moyen de se protéger des cambrioleurs. Vous leur demandez d'ouvrir l'œil et de prévenir la police s'ils voient des mouvements suspects autour de votre maison. Vous pouvez aussi leur confier un jeu de clés pour qu'ils viennent régulièrement allumer la lumière, la télé ou la radio dans la journée.
Bon, on a encore des questions à vous poser parce que certains aussi trouvent le truc de simuler la présence dans un lieu d'habitation. Ce sera dans un instant. Sinon, vous avez déjà fait les autotests Covid ?
Non, pas encore.
Eh bien, figurez-vous que Sophie Jousselin va nous rejoindre après dans ce studio et qu'apparemment, je vais passer à la casserole. Donc, on verra effectivement comment ça se passe. Et puis après, on parlera des aliments déshydratés. Ça peut changer beaucoup de choses, effectivement, dans nos cuisines. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Merci d'être avec nous. C'est le rendez-vous du samedi matin. Si nous voilà bien, on est ensemble jusqu'à 10h. Dans un instant, nous allons vous parler des autotests Covid. D'ailleurs, Sophie Jousselin est dans ce studio. Elle est venue avec le test et apparemment, je vais y passer. Il va falloir que je me le fasse moi-même. Alors que déjà, j'ai un peu de mal, effectivement.
C'est le but de l'autotest.
C'est le but de l'autotest, effectivement. Merci. Je suis bien réveillée, Sophie. Tout va très bien. Angèle Ferremac va nous parler de la déshydratation des aliments dans notre cuisine. Mais pour l'heure, on se sécurise avec Armelle Lévy.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman.
Ils ne sont pas tous gentlemen et ils n'ont pas tous le physique avantageux de Jacques Dutronc. Les cambrioleurs, on en parle avec vous, Armelle Lévy. Vous nous livrez énormément d'astuces ce matin. Est-ce qu'on peut simuler notre présence pour se protéger ?
Oui, pour moins de 10 euros, vous pouvez acheter des boîtiers avec une minuterie. Ces programmateurs s'installent sur des prises électriques reliées à vos lampes pour qu'elles s'allument aux horaires programmés dans les pièces visibles depuis l'extérieur. Ou encore, installer des caméras factices, ça coûte 10 euros à l'extérieur de la maison. Et pour muscler votre système de sécurité, vous pouvez fixer un détecteur de mouvement dans votre jardin pour 50 euros.
Et l'alarme, c'est vraiment dissuasif ?
Oui, bah comme ça fait du bruit, hein, ça fait fuir les voleurs. Selon l'UFC Que Choisir, les alarmes coûtent globalement entre 500 et 5000 euros selon la taille du logement. Elles ne sont pas reliées au poste de police, mais elles vous alertent, vous et tout le voisinage. Et il y a des alarmes maintenant reliées à votre smartphone. Donc quand elles sonnent, vous recevez une notification.
Et la télésurveillance, alors c'est quoi ?
Eh bien, 2 300 000 foyers sont équipés. Ce marché est en croissance de 6 à 7% depuis une décennie. Quand le bouton SOS est activé, un agent de télésurveillance va vous parler par interphone, enregistrer les images à l'aide des caméras disposées dans la maison. Il va prévenir la police. Il peut envoyer aussi un gaz pacifiant pour faire fuir les voleurs. L'installation coûte en moyenne 600 euros. Et après, il faut ajouter 40 euros par mois d'abonnement.
Et c'est quoi un gaz pacifiant ?
Eh bien, c'est un gaz anesthésiant. Ça fait fuir les voleurs.
Ah, oh, d'accord, ok. Effectivement, ça, je pense que ça peut être dissuasif et efficace. Qu'est-ce qu'on fait si on s'absente pour une longue durée, Armelle Lévy ?
Eh bien, vous pouvez prévenir les forces de l'ordre que vous n'êtes pas là. Elles passent régulièrement devant pour vérifier que tout va bien. C'est l'opération Tranquillité Vacances. Vous pouvez remplir le formulaire sur le site service-public.fr, puis le déposer au commissariat ou à la gendarmerie au moins 2 jours avant votre départ. Il y a aussi, dans certaines communes, le réseau des voisins vigilants. Oui. Ils s'engagent à faire remonter aux forces de l'ordre les agissements un petit peu louches. Sinon, vous pouvez prêter votre domicile à votre famille ou le proposer à des amis. Il existe aussi des plateformes d'échange de maisons et d'appartements et des sociétés de home sitting, c'est de la garde de maison pour 130 euros la semaine en moyenne. Des retraités ou des jeunes occupent votre maison, mais avec le coronavirus, c'est moins tendance en ce moment.
Oui, vous avez raison, c'est moins tendance. Merci beaucoup Armelle Lévy pour tous ces conseils, en tout cas sur la sécurité de notre logement en ce samedi matin. On se sent plus sécurisé grâce à vos lumières.